Morning Edition from NPR News.
Das sieht hier San Peter aus. Hay
hambre de los
olivares. France Inter. Le 18-20.
Israël n'avait pas vu ça depuis bien longtemps quand même. Des attentats successifs ces dernières semaines. Une étiquette aussi État islamique sur les terroristes qui donne à réfléchir. Et puis une crise gouvernementale qui fragilise la coalition Naftali Bennett. On y vient tout de suite. Le bruit du monde, ce sont d'abord les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Vous verrez que Daria continue à préparer son expatriation vers la Belgique finalement. Nous irons aussi en Thaïlande où voilà que les Russes sont à Phuket. Et croyez-moi, ça n'est pas pour la météo. Le bruit du monde, la fin. C'est Sébastien Logénis sous les radars qui a trouvé la mort d'une femme enceinte qui secoue le Sénégal, une série télé pas ramadan compatible en Algérie et une femme de 90 ans qui va à l'école, c'est en Italie. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier, la revanche des crevettes pailletées ce soir, comédie bien sûr française mais tournée en Ukraine. Beaucoup de techniciens du film aujourd'hui portent une arme et ça rend ce film évidemment très différent. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et ce mot génocide au sujet de l'Ukraine prononcé par Joe Biden, est-ce qu'il a bien fait? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Samy Cohen.
Bonsoir.
Directeur de recherche émérito série, Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Je signale votre dernier ouvrage qui s'appelle Israël, une démocratie fragile, publié chez Fayard. Dans un tout petit instant, on rejoindra Frédéric Mettezo qui nous attend chez lui à Jérusalem et qui revient de Jenin en Cisjordanie. Et c'est là que ça nous intéresse. Samy Cohen, je le disais, trois attentats en une semaine, donc successivement, qui ont pris Israël par surprise. J'allais dire 13 morts, je crois que c'est 14 morts en fait, le bilan réel. Tout le monde a fait le rapprochement avec, il y a 20 ans, la vague d'attentats qui avait amené jusqu'à l'opération Rempart. Est-ce que comparaison est raison? Est-ce qu'une vague est devant nous? Est-ce qu'on peut rapprocher ces trois attentats? Comment vous voyez les choses?
Écoutez, on n'en sait rien. Mmh. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les attentats qui se sont produits sont le fait de loups solitaires. C'est pas le fait d'organisation très structuré, difficilement pénétrable, et donc on n'en sait rien. Comment ces gens se sont levés un beau jour et ont décidé de faire un attentat, c'est un mystère même pour le Shabak, pour les services de sécurité israéliens. Ils ne savent pas très bien.
Un mystère ou une erreur d'ailleurs, parce qu'on leur a reproché aussi de ne rien avoir vu venir.
Alors il y a deux erreurs. Mmh. Premièrement, une erreur, je dirais. Peut-être qu'on peut difficilement le reprocher, c'est de ne pas avoir infiltré ce type de personne, mais c'est impossible à infiltrer, quand vous avez une personne seule qui se lève et décide de faire un attentat. L'autre erreur, alors elle est plus générale, c'est le fait que la barrière de sécurité n'est pas hermétique. Elle n'est pas hermétique pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a été négligée pendant des années. La deuxième raison, c'est que un certain nombre, Israël a accepté que des milliers de Palestiniens viennent travailler en Israël. Et donc, il y a plusieurs possibilités pour quelqu'un qui veut commettre un attentat de passer par la clôture sans difficulté. Il peut passer avec sa voiture et aller rouler jusqu'à Tel Aviv et commettre son attentat. Là, il y a une véritable erreur qu'ils sont en train d'essayer maintenant de colmater à la hâte. Mais voilà, le mal est fait.
Alors, on va y venir parce qu'effectivement, le dilemme de Naftali Bennett est de savoir s'il faut fermer hermétiquement. Mais on sait les conséquences que ça peut avoir que de fermer hermétiquement ou au contraire, effectivement, de continuer à laisser ces passages. Un mot quand même avant sur cette revendication, au moins pour deux des attentats, en tout cas par Daesh, qui est là pour le coup quasiment inédite. Est-ce qu'on s'étonne de cette revendication de la même manière? Est-ce qu'on se dit, mais d'où ça sort? Subitement, en fait, maintenant.
Écoutez, depuis un certain temps, Daesh essaye de s'infiltrer dans la société arabe d'Israël. Mm-hmm. Elle réussit plus ou moins. Je veux dire, les personnes qu'elle a réussi à recruter sont vraiment, peuvent se compter sur les doigts d'une main. Mais ça fait quand même, ça a un impact psychologique assez important. Le fait est que voilà, ça s'est produit, mais je pense que quand même la possibilité qu'il y ait d'autres attentats venant de Cisjordanie sont plus importantes dans la mesure où le Hamas et le djihad islamique depuis déjà un an ou deux essaient de se réorganiser dans la ville de Jenin, donc se réarmer, se réorganiser et programmer des attentats. Il y a d'ailleurs eu une cellule ou deux récemment, là, ces derniers jours, qui ont été démantelées.
Est-ce que ça veut dire que ceux-là, et même si au fond, ils n'ont peut-être rien à voir de fait, on en inspire d'autres et qu'on profite, on peut profiter de ces deux ou trois attentats-là pour en commettre d'autres? Est-ce que c'est, pardon de le dire comme ça, l'occasion qui fait le larron dans ce contexte-là? Est-ce que ça existe? Je vous pose la question aussi parce que personne n'a intérêt, ni le Hamas, ni l'autorité palestinienne, ni Israël, à ce que Daesh subitement s'implante et fasse cette résurgence-là. Donc est-ce qu'il y a une occasion qui fait le larron, pardon de le redire comme ça?
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je dirais que ça reste quand même très marginal. Je dis, il faut pas accorder non plus une importance démesurée à l'infiltration de Daesh. Daesh sera, les quelques rares personnes seront arrêtées, les réseaux seront démantelés parce qu'il n'y a pas vraiment un soutien populaire et même un soutien des organisations paramilitaires.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une concordance d'événements qu'il faut regarder ou est-ce que le timing est là aussi une sorte de mystère? Je pense par exemple au sommet américano-arabo-israélien qui avait lieu pile au même moment. Est-ce qu'on fait une concordance ou là aussi on se dit pas forcément, non?
Non, c'est très difficile de savoir. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit politique entre Israël et les Palestiniens. Voilà, ça s'est jamais, ça n'a jamais disparu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant assez longtemps, la situation dans Jenin s'est calmée. Et donc, du coup, les forces de sécurité israéliens et palestiniens qui travaillent la main dans la main ont relâché la tension. Et donc, ça a permis à des réseaux, à des individus, de s'organiser, de circuler plus librement. Et maintenant, ils sont en train de revenir là-dessus, de remettre la pression, d'entrer dans Jenin, d'entrer dans le village, d'essayer de faire des arrestations, des saisies d'armes. Je pense que la question est de savoir, certains se demandent, est-ce qu'il y aura une deuxième opération rempart comme il y a eu en 2002.
Et comme il y a eu il y a 20 ans, et c'est là aussi que les comparaisons, on se souvient d'ailleurs après ça ce qui s'était passé, la rudesse des relations derrière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais justement qu'on y aille à Jenin ou presque. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Oui, bonsoir à tous.
Je dis presque parce que vous en revenez à l'instant.
Oui,
d'ailleurs,
à l'instant.
Vous y avez passé la journée. Et c'est vrai, ce que dit Sami Cohen, ce qui fait le rapprochement, évidemment, c'est Jenin, d'où sont originaires, effectivement, les terroristes, notamment ceux de Tel Aviv, le dernier attentat. Jenin qui a toujours été ce point névralgique, qui l'a été il y a 20 ans, qui a amené à cette fameuse opération Rempart. Vous qui en revenez, vous revenez de quoi, en fait? Est-ce que vous revenez d'une poudrière? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez senti?
Oui, c'est une ville entre deux. Il faut savoir que Jenin, normalement, c'est une ville où l'économie est plutôt active, a fortiori pendant le Ramadan. Vous savez, les gens achètent des cadeaux, achètent des beaux vêtements, ils achètent des grosses quantités de nourriture pour préparer les bons plats du soir. Donc normalement, vous savez, c'est vraiment très festif. Surtout qu'en plus, on voit normalement à Jenin un flot d'Arabes israéliens qui vont faire leurs courses parce que c'est moins cher qu'en Israël. Donc ils vont chez les cousins palestiniens. Et ben là, pas du tout. L'accès est interdit aux Arabes israéliens pour qu'il n'y ait pas de contact justement avec la Cisjordanie. Et donc, le marché à Jenin était morne, les boutiques sont vides, les vendeurs attendent les clients un peu désespérément. Les étals sont plantureux, mais les allées sont plutôt assez squelettiques. Je me suis rendu à la chambre de commerce, on m'a parlé d'un manque à gagner quotidien pour le gouvernorat de Jenin de 2 millions d'euros par jour, parce que l'essentiel des affaires n'a plus lieu. Ça peut paraître important, mais non, ce chiffre, il m'a été confirmé de bonnes sources diplomatiques européennes il y a quelques instants. Sinon, c'est une ville dans l'attente. Je me suis également rendu dans le camp de réfugiés et là, c'est un entre-deux. Il y a déjà eu plusieurs interventions de l'armée israélienne. Ça sent encore le brûlé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on entre dans le camp? On voit des barrages qui sont prêts à empêcher les véhicules. Vous savez, des barrages de pneus, des barrages de déchets. Et au-delà de ça, on voit des gens très déterminés. J'ai parlé avec plusieurs personnes de ce camp. Pour eux, les terroristes de Bnei Brak ou de Tel Aviv, eh bien, ils ont eu raison. Pourquoi ? Parce que selon eux, 20 ans après la deuxième intifada, la violence a été un échec. Mais derrière, ces gens nous disent, vous voyez bien que la diplomatie, ça ne marche pas. Vous voyez bien que la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne, ça ne marche pas. Et 20 ans, c'est une génération. On a donc une génération qui est prête à renouer avec la violence. Et je vous assure, ils ont vraiment le soutien de la population.
On l'évoquait à l'instant avec Sami Cohen, Frédéric. On sait bien que l'autorité palestinienne n'a plus de prise, en fait, ni sur ces gens, ni sur beaucoup de gens d'ailleurs. Donc là, ces jeunes-là vous ont paru, qu'est-ce qu'on vous en dit à Jénine, sont guidés par quoi, guidés par qui? Ou alors est-ce qu'on on assume parfaitement que cette nouvelle forme de violence, effectivement, c'est un jeune qui se lève et puis un autre après, de manière très indépendante les uns des autres?
Oui, c'est complètement assumé. Les Israéliens utilisent le terme « loup solitaire », qui est aussi celui qu'utilisent souvent les services occidentaux. Eh bien ici, on nous dit « c'est pas des loups solitaires, c'est des lions solitaires ». Parce que dans la culture palestinienne, le lion est un animal extrêmement noble. Et donc, on assume de parler de lion solitaire. J'ai discuté avec deux personnes qui connaissaient Raed Azem, qui a commis l'attentat à Tel Aviv. Ils m'ont dit « il n'était pas lié à une faction, il fait partie de ces jeunes, vous savez ». Qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux, il ne laisse pas ces vidéos de revendications qu'on voyait, vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, de gens qui allaient mourir, sans doute en commettant des attentats. Leurs connaissances nous le disent comme ça, hein, je vous cite leurs mots évidemment, ils sont guidés par le désespoir, ils sont guidés par le désespoir qui est lié à l'occupation. Pour eux, depuis 25 ans, on enchaîne les échecs, hein, ce sont leurs mots. Et puis on m'a dit ce qui est peut-être, je trouve, le plus inquiétant. Au moins, quand il y a de la violence, eh bien, on parle de nous, les Palestiniens.
Une dernière chose, Frédéric, vous l'avez un petit peu évoqué, notamment quand vous disiez que ça sentait le brûlé près de chez vous. Est-ce qu'on sent à Jénine plus de véhicules de protection de l'armée, plus de protection toujours d'ailleurs? Est-ce qu'on sent cette fébrilité, cette idée que, attention, ça peut recommencer, ça peut revenir, et donc il faut vraiment serrer les taux et serrer la vis?
Alors, dans Jénine, non. Aujourd'hui, j'ai pas vu d'intervention de l'armée israélienne. En revanche, ce matin, en montant à Jénine, à peu près 2h30 de route de Jérusalem, j'ai vu, vous savez, des gros véhicules blindés de l'armée israélienne qui redescendaient. Et en descendant de Jénine, j'en ai croisé qui montaient. Les contrôles aussi, à ce qu'on appelle les checkpoints militaires, étaient plus stricts que d'habitude. On vous dit, on vous demande, on vérifie que vous n'êtes pas justement un de ces Arabes israéliens, un de ces Palestiniens d'Israël. Une fois que vous êtes journaliste, on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Donc les contrôles sont plus stricts. Et puis surtout, le paysage a changé parce que pendant toutes ces années, la colonisation a continué. Et donc on a ces fortins, ces miradors qui montrent quand même que la colonisation a avancé. Et donc Jénine est comme une espèce de petit enclave en Cisjordanie.
Merci
un
beaucoup.
Mini Gaza, m'a dit un Palestinien. Il dit, on est en train de devenir un mini Gaza.
Merci beaucoup, Frédéric Mettezo. Mini Gaza, Sami Cohen. Le risque, c'est ça, parce que ce que je retiens de ce que nous dit Frédéric Mettezo, c'est prêt à tout, guidé par le désespoir. C'est à ça que ça amène.
Non, ce sera pas un mini Gaza, parce que d'abord, Gaza est une grande ville, très peuplée, très difficile à pénétrer. La moindre opération peut se solder par des pertes en vie humaine du côté palestinien et du côté israélien. Là, Jénine, c'est beaucoup plus réduit. Les Israéliens ont une certaine expérience de l'opération Rempart en 2002. Cela étant, on n'est pas en 2002. En 2002, il y avait une succession d'attentats suicides qui ont fait, au total, en 3 ou 4 ans, un millier de morts. On n'est pas dans le même contexte. Donc, je pense que les autorités israéliennes font bien attention de ne pas surchauffer la région, c'est-à-dire essayer de démanteler ce qu'ils peuvent démanteler, d'essayer de récupérer des armes surtout parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent dans Jénine, mais en même temps essayer de ne pas provoquer un embrasement généralisé dans la région.
Ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, que l'opération Rempart, c'était se réemparer des zones autonomes, en fait, on va le dire un peu succinctement, c'est ça que ça voulait dire, il y a 20 ans, donc en 2002, de la part d'Israël.
Oui.
Cela dit, premier défi majeur quand même pour Naftali Bennett, non, Sami Cohen, et sacré défi majeur à un moment où sa coalition est particulièrement fragilisée.
Oui, c'est vrai que le pauvre entre guillemets, il est maltraité à la fois sur le front intérieur, puisque une de ses députées de son propre parti l'a abandonné, et donc il n'a plus de majorité. Avant, il avait une majorité d'une voix.
Ouais, c'est ça.
Il n'a plus de majorité du tout. Donc, au fond, il y a deux blocs, un bloc de coalition, 60 députés. En face, il y a 60 députés. Ceux qui peuvent faire véritablement jouer les arbitres, c'est la liste commune, la liste arabe commune, qui pourraient être 6 députés, mais ils ont clairement dit qu'ils ne soutiendront ni l'un ni l'autre. Ils ne veulent pas jouer ni du côté de Bennett, ni du côté de Benjamin Netanyahu.
Mais qui sont vraiment entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qui se passera effectivement pour cette liste-là si Naftali Bennett décide de frapper un grand coup quand même, c'est-à-dire de fermer les accès, notamment à Jenin, etc. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'en vont? Est-ce que le risque, c'est ça, et que la coalition définitivement explose?
Écoutez, pour l'instant, la coalition des 60 députés comprend un petit parti politique arabe qui est le parti de Mansour Abbas, qui s'appelle le Ra'am. Alors, qu'est-ce que le Ra'am va faire? Il pourrait très bien, si l'opération est trop dure, provoque des pertes en vie humaine, civiles du côté palestinien, il est très possible que Mansour Abbas dise que non, c'est trop, et qu'il menace de quitter la coalition, auquel cas, ça fait tomber le gouvernement.
On voit bien que Benjamin Netanyahou est en embuscade, on va dire comme ça, ça a été le cas de la députée qui est partie, a immédiatement été rejoindre son camp de l'autre côté. Est-ce que là aussi, on n'est pas à l'abri de ce retournement-là, ce nouveau retournement en Israël, selon vous? Parce que possible?
Non, on n'est pas à l'abri d'un retournement, ce sera un peu compliqué, parce que malgré tout, Benjamin Netanyahou n'a pas la possibilité de former, n'a pas la majorité pour former un gouvernement. Voilà. Et donc, le risque est qu'il y ait des élections supplémentaires, un cinquième tour, puisqu'il y en a déjà quatre, un cinquième tour qui ne garantit pas que l'un ou l'autre puisse l'emporter. Et donc, on risque de se retrouver avec la même situation qu'on a connue il y a 2 ans.
Il n'y a pas si longtemps, c'est la raison pour laquelle cette coalition de Naftali Bennett est aussi hétéroclite, qui va depuis l'extrême droite jusqu'aux pacifistes. Ce qui la guidait, c'était tout sauf Netanyahou, en fait. Ouais. On va de toute façon se retrouver, si jamais il y avait renversement, exactement dans le même cas. Donc, on prend les mêmes mots et on recommence, ou est-ce qu'il s'est refait une petite forme de virginité quand même qui fera que cette coalition sera moins bloc contre lui?
Non, parce que tous les sondages montrent que récemment, que Benjamin Netanyahu monte lui-même, son parti politique monte dans les sondages, mais malgré tout, l'ensemble des partis politiques qui peut mobiliser pour une coalition n'atteignent pas la majorité dans la Knesset, dans tous les cas de figure. Il n'a pas la majorité.
Voilà, la crise politique, c'est un peu le deuxième prénom d'Israël.
On pourra en reparler.
Ce sera avec grand plaisir, Sami Cohen. Merci beaucoup de votre passage avec nous. Merci.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est Daria dans les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Elle prépare son départ vers la Belgique. Et puis vous verrez que les riches russes sont nombreux en Thaïlande, et c'est pas pour les plages, en tout cas pas seulement. Pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Sébastien Legénie.
Au Sénégal, la mort d'une femme enceinte relance le débat sur la mauvaise santé de l'hôpital public.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier qui viendra avec La Revanche des crevettes pailletées. Vous verrez pourquoi ce film français nous intéresse dans le cinéma en VO dans un tout petit instant. Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Joe Biden a surpris hier soir en employant le mot génocide à propos de l'Ukraine. Un choix un peu troublant.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il est en terrain connu avec Billie Eilish, Billy Bossa Nova, c'est dans la playlist d'Inter, à tout de suite. Love when it comes without a warning, cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. Le bruit du monde commence ce soir encore par les notes vocales de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Dans vos notes vocales d'Ukraine, Caroline, on retrouve tous les soirs des Ukrainiennes et Ukrainiens qui racontent comment ils traversent cette guerre aujourd'hui. Et demain aussi d'ailleurs, nous sommes avec Daria, qu'on a croisée il n'y a pas si longtemps.
Voilà, je suis en train de faire les valises. C'est le soir. Les filles sont en train d'écouter un conte. Un conte audio.
Я беру цей рюкзачок.
Voilà, la petite Olga, elle prépare son petit sac à dos, elle met ses jouets, ses poupées, ses ponies.
Я вам буду забрала.
Що ти забрала? О, ні, це тато, мабуть, забрав княжечку. Elles ont fait une maison en pâte à modeler, mais je pense pas qu'on puisse la prendre. On vient d'avoir l'information sur sur l'alerte aérienne. Voilà, donc nos préparatifs sont interrompus. On se met dans le couloir. Même si Kiev est libéré, on a des raisons de croire que des pires actions sont encore possibles. Voilà, donc on se dit que on va quand même partir pour une période.
La toute première fois qu'on entendait Daria ici, c'était le 3 mars, avec son mari. Et ses deux filles venaient de fuir Kiev pour s'installer dans cette maison d'une tente éloignée à l'ouest du pays. Et elle avait enregistré son mari qui se familiarisait avec la cuisine et les casseroles de la tente. Il coupait des carottes, il préparait un borsch, cette incroyable soupe ukrainienne rouge vif.
Ça tombe vraiment bien, parce que c'était le premier jour où on est venu ici, que mon mari a préparé du borsch, il en a préparé aujourd'hui. Donc on se met à table. Всем смачного. А французско знаєте, як буде?
Bon appétit.
Bon appétit. Non, on doit déjà apprendre un petit peu le français quand même.
Et bon appétit. En effet, on va la retrouver demain, Daria. Vous verrez qu'elle a fini par se décider à partir, à quitter l'Ukraine. Au moment où on se parle, elle doit être sur la route qui l'emmène en Belgique et elle nous donnera des nouvelles donc de son arrivée, comment ça s'est passé en arrivant là-bas sur place. Merci beaucoup à elle et merci aussi à vous, Caroline Gillet. À demain.
Le 18-20.
Le bruit du monde, la suite est en Thaïlande ce soir et vous allez voir comment certains riches citoyens russes, très riches, qui fuient les sanctions, se retrouvent à Phuket. Ils y arrivent nombreux et vous allez comprendre que ça n'est pas l'attrait de la plage qui attire cette drôle de faune. Et la suite, c'est Carole Izou qui raconte.
Sur le pont extérieur d'un yacht étincelant, sur les eaux turquoises de la mer d'Andaman, ils sont une vingtaine de Russes à boire du vin blanc français face au coucher du soleil. L'organisateur de ces soirées de luxe s'appelle Denis Oudariev. Lui est ukrainien, ancien patron de boîte de nuit à Kiev, mais il doit mettre ses sentiments personnels de côté car 80% de sa clientèle est russe et depuis le début du conflit, ses affaires ont décollé.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'ultra-riches qui sont arrivés ici depuis le début de la guerre, depuis un mois environ, qui ont fait fortune en Russie ou en Ukraine ou encore dans les crypto-monnaies. Récemment, j'ai eu de gros événements organisés pour des Russes qui venaient d'arriver. Des soirées privées, on n'a pas le droit de prendre de photos. Hier, c'était soirée d'anniversaire dans une villa. Près de 10 000 euros la soirée. Beaucoup de super riches continuent à arriver. Ils aiment bien faire des soirées à thème dans leur villa ou sur leur yacht, genre Aladdin, avec des danseuses, des magiciens. Ce qui marche le mieux, c'est Gatsby. Les femmes en robe de soirée, les hommes en smoking, des bougies, du doré partout. Chaque année, j'organise une dizaine de soirées comme celle-ci.
Mais s'ils savent apparemment s'amuser, ces super riches ne sont pas là que pour le plaisir. Fuyant les sanctions européennes, les saisies et un marché occidental désormais perçu comme instable, ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir investir leur argent en Thaïlande et en Asie. C'est ce que constate Jana Zviritkova à la tête d'une agence immobilière spécialisée dans les villas de luxe à Phuket. Pour elle, il y a aujourd'hui deux types d'investissements russes.
Certains Russes veulent maintenant rapatrier leur argent en Russie parce qu'avec le départ de grandes compagnies comme McDonald's ou Coca-Cola, il y a un espace pour monter des affaires avec un taux de croissance très rapide. Puisqu'il y a déjà une base de clientèle, il y a des gens prêts à boire du Coca ou à manger des hamburgers. Ils ont déjà le concept. Il suffit de faire un McDonald's à la russe. D'autres veulent investir dans l'immobilier en Asie parce qu'il y a une perspective commune. Ils veulent avoir des réserves en Thai Baht ou dans d'autres monnaies asiatiques parce qu'on ne sait pas ce que vont donner les sanctions en Europe. Et ces monnaies sont plus stables que le rouble.
Des liquidités qui reviennent en Russie et des partenariats commerciaux avec les voisins asiatiques, c'était le plan de Poutine dès le départ, affirme-t-elle hors micro. D'ailleurs, la Thaïlande et d'autres pays de la zone comme la Malaisie ou la Birmanie sont au premier rang pour remplir le vide créé par le boycott européen. C'est ce que nous explique Vitaly Kiselev, directeur de la Chambre de commerce russo-thaï.
Les pays européens ont banni certains produits russes. Cela donne à la Thaïlande et à d'autres pays une occasion de prendre leur place dans les secteurs de l'énergie, du pétrole, de l'acier. On a aussi maintenant des demandes de fabricants russes qui ne peuvent plus obtenir leurs pièces détachées d'Europe et donc ils commencent à demander à la Thaïlande de les fabriquer. Les pays qui conservent une position neutre bénéficient d'un avantage.
Les hommes et femmes d'affaires russes seraient donc plus enclins à des partenariats chinois ou sud-est asiatiques, avec le risque, préviennent les analystes, de voir émerger un bloc commercial asiatique plus indépendant des puissances occidentales et de nouveaux oligarques.
Carole Izou pour le reportage en Thaïlande. Merci beaucoup Carole, à très vite. La suite c'est Sous les radars et c'est Sébastien Legénie. Et Sébastien, nous sommes au nord du Sénégal où la mort d'une femme enceinte provoque un tollé dans tout le pays.
Les faits remontent à plusieurs jours dans un hôpital public de la ville de Louga, à 200 km au nord de Dakar. Selon les médias sénégalais, le 7 avril dernier, une femme d'une trentaine d'années, Astou Sokna, mariée, enceinte de 9 mois, a trouvé la mort après avoir demandé en vain une césarienne. Une opération que le personnel médical lui aurait refusée car elle n'était pas prévue au programme. 20 heures d'attente et de souffrance avant de mourir. Le bébé non plus n'a pas pu être sauvé. Depuis près d'une semaine, l'affaire fait grand bruit sur les plateaux de télévision, au point que le président sénégalais Macky Sall a fini par intervenir pour demander que toute la lumière soit faite sur ce drame. Un drame qui révèle deux choses. Malgré une loi adoptée ce mois-ci, les droits des femmes enceintes restent très mal respectés au Sénégal. Nombreux sont, par exemple, les employeurs qui licencient des femmes dès qu'elles attendent un enfant. Et puis, il y a ces services publics qui fonctionnent mal, des hôpitaux publics qui manque de personnel, de matériel avec des salaires de misère, régulièrement dénoncés par les syndicats. En avril dernier déjà, 4 nouveau-nés étaient décédés dans l'incendie d'un hôpital public à la campagne. Une pétition réclamant justice pour Astou a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures. Une marche de soutien à sa famille est prévue vendredi.
En Algérie, la censure interdit une série télé pas suffisamment halal.
La série télé pendant le Ramadan, c'est une tradition dans les pays musulmans. À la rupture du jeûne, on regarde des feuilletons en famille, mais là, la dernière création tuniso-algérienne de la chaîne privée Enahar se retrouve au cœur d'une polémique, une séquence jugée immorale par les téléspectateurs.
La série s'appelle Les Cerises et une scène en particulier a révulsé les internautes où l'on voit une employée de bureau tenter d'aguicher son patron avec des poses jugées un peu trop suggestives. C'est de la prostitution, une série dégénérée. Où est l'autorité de régulation? Écrivent furieux certains Algériens sur Twitter. L'émoi est-elle dans le pays que le directeur de la chaîne a été convoqué par l'État, obligé de s'excuser auprès du public et d'arrêter la diffusion de la série pour une durée d'une semaine, le temps de passer en revue tous les épisodes. À noter que seule l'Algérie a décidé de censurer la série, pas la Tunisie.
On termine en Italie avec une élève parmi les plus âgées du monde.
Ouais, elle s'appelle Annunziata Murgia et elle a décidé de retourner dans un collège de Sardaigne pour passer l'équivalent d'un brevet. Normalement, c'est un du brevet d'ailleurs. Normalement, c'est un diplôme que l'on décroche à l'âge de 14 ans, mais là, Annunziata va le passer à l'âge de 90 ans, la plus vieille collégienne d'Italie. Et elle revient sur les bancs de l'école, explique Madame Murgia, parce qu'elle n'a pas pu finir sa scolarité à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Obligée de travailler, elle est devenue couturière, mais elle a toujours tenu à lire, à beaucoup se cultiver, passionnée d'histoire et de musique. Malgré ses petits soucis, ses soucis d'audition et ses coups de fatigue, Annunziata doit présenter son examen en juin prochain. Annunziata, qui n'est pas la seule nonagénaire dans le monde, à retourner à l'école. On entend là un magnifique documentaire sur une autre femme qui a repris le chemin des cours sur le tard, une Kenyane de 94 ans, surnommée Gogo, une arrière-grand-mère inscrite en primaire qui s'est lancée comme défi d'apprendre à lire et à écrire et de passer son examen de fin de CM2 pour montrer aux jeunes filles, l'importance de l'instruction et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre.
Merci beaucoup Sébastien. Je vous laisse partir avec Moriarty. Figurez-vous, on adore Enjoy the Silence, c'est sur France Inter.
Words like violence break the silence, come and crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl.
Silence et Moriarty sur France Inter. Allez, cinéma.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
Can I help you?
Yes.
All right.
Le premier volet de leurs aventures, Corinne Pellissier avait fait un tabac inspiré d'une histoire vraie. Dans le cinéma en VO, aujourd'hui, on vous parle d'un film français tourné l'année dernière en Ukraine. Et donc, les comédiens, pour la plupart, ont pris les armes depuis pour défendre leur pays. La revanche des crevettes pailletées, c'est au cinéma ce mercredi. Et malgré tout ça, c'est une comédie.
Voilà, c'est l'histoire d'une équipe de waterpolo en route pour les Gay Games de Tokyo qui se retrouve coincée en Russie par radinerie sur les billets d'avion. Voilà pour le pitch. Le premier volet des crevettes pailletées sorti en 2019 avait rencontré un beau succès en salle, collecté aussi un prix au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. C'est une suite qui était donc attendue, toujours sur le thème de l'homophobie. Sujet impossible à traiter depuis la Russie pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi les deux réalisateurs du film, Cédric Le Gallo et Maxime Govard, ont choisi de délocaliser le tournage en Ukraine, qui est une vraie terre de cinéma, beaucoup de films, beaucoup de séries comme Le Bureau des Légendes ont été tournés sur place ces dernières années. Et pour cette ressemblance avec la Russie, ses paysages, sa langue, même si tout cela aujourd'hui évidemment semble un peu tristement ironique.
Le film avec sa thématique qui est certes LGBT, en fait trouve énormément son écho dans ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est la même chose. Nous, on a fait un film sur la liberté, et en fait, en ce moment, l'Ukraine est dans un combat pour sa propre liberté.
Ce qui est intéressant avec la Russie, contrairement à d'autres pays où il y a la peine de mort quand on est homosexuel, c'est que c'est plus perfide. L'homophobie est inscrite dans la loi d'une certaine manière, puisqu'il y a cette loi qui s'appelle anti-propagande LGBT, mais il n'est pas interdit d'être homosexuel. En revanche, à travers cette loi, il est interdit de tenir la main de son compagnon et on finit en prison.
C'est la même logique que ce qu'on a aujourd'hui sur les crimes de guerre ou ces choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réalité et on passe son temps à tordre la réalité pour faire passer la victime pour l'agresseur. Ce qui est exactement ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle. Donc c'est totalement la même logique.
Et ce qui est intéressant avec la Russie, c'est que contrairement à l'Iran ou la Tchétchénie, où vraiment les homosexuels sont persécutés, assassinés, on n'aura pas pu faire une comédie dans ces pays-là, les sujets sont trop graves.
En fait, là-bas, c'est la version un peu... c'est la version pire de plein de choses que la communauté LGBT peuvent connaître en France. Mais ça reste à... l'Ukraine, ça reste à 3 heures d'ici, et la Russie à 4 heures, du coup. Donc c'est pas à l'autre bout du monde, c'est dans la trans-Europe, quoi.
Coril, le film a été tourné l'année dernière, entre Lviv et Kiev. Donc on imagine bien, du coup, ce qu'a dû être la promo de ce film quand la plupart des acteurs, des techniciens embarqués sur le projet vivent aujourd'hui sous les bombes.
Voilà, la guerre en Ukraine, c'est sûr, est venue à gâcher un peu la fête. Et en même temps, le film qui sort aujourd'hui est une occasion de parler d'eux. Pour Cédric Le Gallo, Maxime Govard, eh bien c'est très important. C'était dès le début du conflit, c'était important d'avoir au gré des avant-premières un moment sanctuarisé pour qu'on ne les oublie pas.
Nous, nos équipes restées sur place ont très envie qu'on parle d'elles, qu'on parle du film. Ils sont très fiers d'avoir participé à ce film qui justement prône des valeurs de liberté. Ils auraient dû être là à Paris cette semaine avec nous. On pense très fort à eux. Et nous, tous les soirs, on fait une petite vidéo pour leur dire, voilà, on pense à vous, Slavia Ukraini, ce qui veut dire gloire à l'Ukraine. C'est des mots qu'on demande au public de dire pour eux, de les applaudir aussi. Et ça leur fait énormément de bien. Ça paraît dérisoire, évidemment, au regard de ce qu'ils vivent. Mais ils ont très peur d'être oubliés. Parce qu'on le sait, il y a des conflits qu'on a un peu oubliés ou que médiatiquement se sont un peu éteints parce que on passe à autre chose, une actualité chassant une autre. Donc voilà, chacun s'organise comme ça dans des en parallèle de l'armée. Donc c'est très étonnant et très émouvant. Et surtout, ils le font avec beaucoup de panache. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est il y a pas du tout de pathos, alors que leur pays est quand même à moitié rasé avec des crimes de guerre absolument ignobles.
J'ai l'impression que si c'était nous, on serait beaucoup plus accablés que ça. Et il y a une forme d'optimisme pour les lendemains qui chantent, qui fait, qui est extrêmement touchant.
Alors certaines de ces images que l'on voit aujourd'hui résonnent évidemment de manière particulière sur cette musique de David Bowie, ce morceau qu'on entend au moment où je vous parle. Eh bien, on voit défiler dans le film le visage de ces comédiens ukrainiens. Ce n'est pas un ajout de montage, c'était vraiment prévu comme ça dès le départ. Évidemment, la symbolique est encore plus forte aujourd'hui.
Voilà, le retour des crevettes pailletées, la revanche des crevettes pailletées. J'ai mis le retour dans la revanche, on est d'accord.
La revanche.
Voilà, la revanche des crevettes pailletées. Allez-y, en ayant tout ça en tête réellement. Au cinéma ce mercredi, Corinne Pellissier, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Depuis plusieurs jours, Jean-Marc, le président ukrainien Volodymyr Zelensky emploie le mot de génocide pour dénoncer les exactions russes dans son pays. Et hier soir, Joe Biden a créé la surprise en reprenant ce vocable. Et pour vous, le président américain prend un risque en utilisant ce mot de génocide. Et c'est votre monde d'après.
Et soudain, au détour d'une phrase presque au milieu de nulle part, le mot « génocide » en effet est sorti de la bouche de Joe Biden. Il parlait du budget des familles et du tarif de l'essence à la pompe lors d'un déplacement dans l'Iowa. Et il a bifurqué sur le dictateur qui commet un génocide à l'autre bout du monde. Moment de stupeur, jusqu'à présent, l'équipe de Biden avait soigneusement évité d'employer ce mot. Il y a 48 heures encore, le conseiller à la sécurité Jake Sullivan faisait des contorsions sur CNN pour ne pas prononcer le mot génocide. Les journalistes ont donc relancé Biden et il a renchéri. Oui, génocide, parce que Poutine tente d'éradiquer l'idée même d'être ukrainien. L'emploi du mot surprend. Il surprend parce que, à ce stade, les éléments constitutifs d'un génocide ne sont pas avérés. Qu'il y ait des crimes de guerre, viols et assassinats barbares de civils, notamment dans la région de Kiev, c'est un fait. Le procureur de la Cour pénale internationale sur place, aujourd'hui, l'a quasiment confirmé. Qu'il y ait des crimes contre l'humanité, avec ce que cela implique en plus de massacres systématiques de civils, c'est possible. Mais génocide, c'est encore une notion supplémentaire. La planification, l'organisation préalable de l'extermination d'une population précise. On ne peut pas l'établir à ce jour, même si le discours de Poutine participe de ce type de logique en niant l'existence même d'une nation ukrainienne. En tout cas, seule la justice pourra établir la qualification adéquate, donc Biden prend un risque en employant ce mot.
Donc pourquoi il le fait ?
Alors, il y a plusieurs options. Hein. La première hypothèse, c'est une gaffe. Ces mots ont dépassé sa pensée, après tout, ça ne serait pas la première fois. Il est coutumier des embardés, ça expliquerait la contradiction avec son entourage. Dans ce cas, c'est pas très rassurant sur l'état du président américain. Deuxième option, c'est une dramatisation délibérée, l'emploi d'un mot génocide à très forte charge émotionnelle pour attirer l'attention du public. Dans un univers de la communication coutumier de la surenchère verbale, c'est plausible. Utiliser le mot génocide, c'est la certitude en fait de faire la une de la presse. Ça n'a pas raté, regardez, nous-mêmes on en parle ici. Soit dit en passant, Vladimir Poutine fait exactement la même chose, hein, en miroir inversé avec les médias russes. Hier, il a expliqué la poursuite de la guerre par le combat contre le génocide commis par les Ukrainiens. Troisième option, compatible avec la deuxième, c'est une façon pour Biden de justifier certaines décisions politiques, par exemple l'envoi d'un nouveau gros package de livraison d'armes américaines à l'Ukraine. Une façon aussi de dire aux électeurs américains confrontés à la hausse des prix, ok, ici c'est compliqué, mais bon, là-bas c'est pire. Une façon enfin de cacher, par l'inflation du vocabulaire, le refus de s'engager sur le terrain de façon directe en Ukraine. Les mots au lieu des actes.
Mais alors pourquoi c'est risqué d'utiliser le mot génocide ?
C'est à double tranchant. Soit les faits sont avérés par les enquêteurs internationaux, il y a génocide, mais alors du point de vue moral, on ne peut pas rester les bras ballants. Il devient irresponsable de laisser se poursuivre un génocide quasiment sous nos yeux, donc ça devient un peu l'incarnation de notre lâcheté. Soit la qualification de génocide n'est pas retenue. Il y a, et c'est déjà épouvantable, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais alors, entre-temps, il y a eu un sérieux abus de langage, et dans ce cas, cet abus rabaisse la notion même de génocide. Et ça, c'est un problème. L'ONU, rappelons-le, n'en reconnaît que trois des génocides. Contre les Arméniens en 1916, contre les Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et contre les Tutsis au Rwanda en 1994. On peut en ajouter deux autres, qualifications effectuées par des tribunaux internationaux, au Cambodge par les Khmers Rouges à la fin des années 70, et dans le village de Srebrenica par les Serbes de Bosnie en 95. Et c'est tout. Donc attention au vocabulaire, ne pas utiliser ce mot de génocide à tort et à travers. En plus, l'emploi du mot constitue en soi une escalade qui peut fermer la porte à la diplomatie. On ne négocie pas avec un génocidaire et alors face à Poutine, la seule option devient la guerre. Enfin, dernier fait paradoxal, les États-Unis, il faut toujours s'en souvenir, ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale habilitée à prononcer cette qualification de génocide. Voilà, dire tout ça, c'est pas minimiser du tout les horreurs commises en Ukraine. C'est simplement souligner combien l'emploi de ce mot génocide par Joe Biden est troublant et porteur de contradictions.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Bien sûr, à demain. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly dans un tout petit instant. Puis après, il y aura le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. N'échangez rien.